Il est 22h, vous écoutez Europe 1. Le journal de la nuit, c'est maintenant avec Sophie Tussaud.
Le 9 août, c'est donc à cette date que le pass sanitaire élargi entrera en vigueur avec, je le rappelle, ce temps d'adaptation et de rodage dans un premier temps.
Le gouvernement a tranché, l'extension du pass sanitaire sera donc appliquée dès le lundi 9 août, soit quelques jours après l'avis attendu du Conseil constitutionnel. Autre annonce du gouvernement aujourd'hui, celle concernant le protocole sanitaire pour la rentrée des classes. Le ministre de l'Éducation a annoncé 4 scénarios gradués en fonction de la virulence de l'épidémie, avec le risque pour les élèves non vaccinés d'être évincés en cas de contamination dans leur classe. Première condamnation confirmée en France contre un dirigeant étranger dans l'affaire dite des biens mal acquis. Tout le patrimoine acquis frauduleusement par le vice-président de Guinée équatoriale sera donc vendu aux enchères et l'argent restitué à son pays. Une nouvelle médaille pour la France aux Jeux Olympiques de Tokyo. De l'or en aviron pour les rameurs Mathieu Androdias et Hugo Boucheron. Et puis la météo. Et demain sera une journée calme, nous dira Marlène Duret en fin de journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le gouvernement continue de mettre en place ses dispositions pour lutter contre le Covid-19. Ce matin se tenait le dernier Conseil des ministres avant la pause estivale du gouvernement. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a donné plus de détails sur la mise en place de l'extension du pass sanitaire qui devrait être validée par le Conseil constitutionnel le 5 août.
La loi sera donc promulguée dans la foulée avec une entrée en vigueur que nous prévoyons pour le 9 août. C'est donc à cette date que le pass sanitaire élargi entrera en vigueur avec, je le rappelle, au départ, un temps d'adaptation, de tolérance, de pédagogie, d'accompagnement pour les acteurs concernés. J'avais parlé d'une période de rodage d'une semaine, de la même manière que nous l'avons mise en place pour les acteurs culturels et des loisirs qui ont mis en place le pass sanitaire depuis la semaine dernière. Évidemment, que pour les acteurs des transports, de la restauration, des bars, les acteurs qui appliqueront le pass sanitaire à compter de cette date, il y aura évidemment ce temps d'adaptation et de rodage dans un premier temps.
Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui a également annoncé l'état d'urgence sanitaire en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Avec l'entrée en vigueur du pass sanitaire, des questions sur les retours de vacances pour les transports de longue durée. Et on commence à en savoir plus, notamment du côté de la SNCF. Emmanuel Duteil, concrètement, comment va-t-on être contrôlé ?
Eh bien, ces contrôles à la SNCF vont être aléatoires. Vous pourrez être contrôlé au départ, pendant votre trajet ou à l'arrivée, voire pas du tout. L'idée, c'est de rendre ces contrôles le plus fluide possible, notamment au moment du week-end du 15 août, qui sera, comme chaque année, l'un des plus chargés de l'année. Car c'est bien ça le risque. Un contrôle systématique à l'embarquement aurait pu être synonyme de grosse pagaille. Si jamais vous deviez être testé positif au Covid, au moment où vous devez prendre le train, sachez que la SNCF vous remboursera le voyage. Comme le dit la compagnie, début août, la règle sera donc simple, un billet, un masque et un pass sanitaire. Ces contrôles concernent les trajets en TGV, intercité et train de nuit. Le pass sanitaire est aussi utilisé pour les vols intérieurs. Air France, pour gagner du temps, propose désormais de vérifier les documents avant d'arriver à l'aéroport.
Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Alors voilà pour les transports et on en sait désormais également plus sur la rentrée scolaire. À 5 semaines du retour en classe des élèves, Jean-Michel Blanquer a donné des détails sur son organisation. Le ministre de l'Éducation a évoqué 4 scénarios correspondant à 4 situations différentes, graduées en fonction de la circulation du virus, Angèle Châtelier.
Oui, dans les collèges et les lycées, par exemple, s'il y a un cas de Covid dans une classe, seuls les élèves non vaccinés devront rester chez eux. Et ça ne veut pas dire qu'ils pourront suivre les cours. C'est ce qu'a rappelé Jean-Rémy Girard, président général du syndicat des lycées et collèges, ce midi sur Europe 1.
Il faut bien que les familles se rendent compte que ils vont rester chez eux, mais ça ne veut pas dire qu'ils auront des cours à distance. On ne va pas faire un cours en visio ou en plus le soir ou le week-end pour les élèves qui sont chez eux. Donc ils auront sûrement les cours sur l'espace numérique de travail, des choses comme ça, comme quand un élève est malade.
L'objectif, c'est la vaccination maximale des élèves. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, espère 100% des adolescents vaccinés d'ici octobre. En ce qui concerne les écoliers de primaire, leur classe fermera instantanément confinement pendant 7 jours s'il y a un cas de Covid. L'idée n'est pas, dit le ministre, d'imposer le pass sanitaire dans le système scolaire, ni de rendre la vaccination obligatoire pour les enseignants, qui de toute façon, pour 80% d'entre eux, sont déjà vaccinés, selon une étude ministérielle. Dans le scénario le plus optimiste, le masque ne serait même plus imposé à l'école primaire. Dans le plus pessimiste, il y aurait un format hybride des cours systématiquement pour les lycéens et pour les élèves de 4e et de 3e. Une limitation des effectifs à 50% aussi et les activités sportives suspendues en intérieur.
Angèle Châtelier, la flambée de l'épidémie se poursuit. Près de 28 000 nouveaux cas détectés ces dernières 24 heures et près de 1 000 patients sont actuellement traités dans les services de soins critiques. L'île d'Aix en Charente-Maritime connaît également une forte hausse des contaminations. Patrick Deneau, le maire, a pris depuis hier un arrêté pour instaurer un couvre-feu entre minuit et 6 heures du matin pour éviter tout rassemblement. Mais cette décision a été retoquée par la préfecture, ce que ne comprend pas le maire au vu de la situation sanitaire.
Pour moi, il était important de prendre cette mesure en écoutant le médecin qui, tous les jours, me dit qu'il y a 3-4 nouveaux cas, des cas contacts. Cette décision, effectivement, ne repose pas sur des bases légales et n'est pas applicable, malheureusement. Enfin, on m'explique qu'il faut attendre qu'il y ait beaucoup plus de cas Covid avérés pour prendre cette décision. C'est-à-dire qu'on n'agit pas en amont, on agit en aval, quoi. Et puis, une fois qu'il y aura beaucoup de gens contaminés, on prendra la décision de mettre un couvre-feu. On vit dans un état de droit, il y a des règles à respecter. Ça, je suis complètement d'accord. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut écouter les gens qui sont sur le terrain. Oui, moi, je suis sur le terrain. Si je prends cette décision, c'est encore en connaissance de cause. On n'écoute pas le maire, quoi. On va attendre en espérant, quoi.
Le maire de l'île d'Aix, Patrick Deneau, avec Laura Taouchanoff pour Europe 1. Autre mesure restrictive face à la flambée de l'épidémie, le masque redevient obligatoire dans le Vaucluse et sur une partie du littoral corse. Les rassemblements non déclarés de plus de 10 personnes sont désormais interdits après 21h dans les espaces naturels et sur la voie publique à Ajaccio et Porticcio.
Europe 1, le journal de la nuit.
Sophie Tussaud.
C'était aujourd'hui le 4e et dernier jour de la visite d'Emmanuel Macron en Polynésie. Le président a abordé un sujet délicat, celui des essais nucléaires effectués par la France dans le Pacifique entre 1966 et 1996. Il a prononcé un discours très attendu par les victimes qui voulaient un geste de Paris. Allocution dans laquelle Emmanuel Macron a reconnu que la France avait une dette envers la Polynésie, Claudia Bertram.
Pas de demande de pardon tant attendue, mais Emmanuel Macron promet de la transparence. À la tribune, entouré de fleurs tahitiennes, il dit tout assumé.
Je pense que c'est tout à fait vrai qu'on n'aurait pas fait ces mêmes essais dans la Creuse ou en Bretagne. On l'a fait ici parce que c'était plus loin, parce qu'on se disait c'est perdu au milieu du Pacifique. Ça n'aura pas les mêmes conséquences.
Tout assumé, y compris le choix du général de Gaulle de se doter de l'arme nucléaire. Devant plusieurs centaines de Polynésiens, le chef de l'État assure vouloir briser le silence.
Je veux ici vous dire que la nation a une dette à l'égard de la Polynésie française. Trop longtemps, l'État a préféré garder le silence sur ce passé. Je veux la vérité et la transparence avec vous.
Ouverture des archives et facilitation de l'indemnisation des victimes, confirme Emmanuel Macron. Des mots et des annonces à la hauteur pour ces Polynésiens venus écouter le discours.
Aujourd'hui, on s'engage vers une ouverture, vers une libération, en fin de compte, de l'histoire.
Moi, la seule chose que je voulais, c'est l'engagement du gouvernement français dans la recherche de la vérité. C'est tout.
Mais pas de quoi répondre aux attentes de l'association 193 qui vient en aide aux victimes. Son président dénonce, lui, de la démagogie. Pas pété, Claudia Bertram, Europe 1.
À l'actualité judiciaire à présent avec cette affaire dite des biens mal acquis et première condamnation définitive en France d'un dirigeant étranger. La justice française confirme le jugement de la Cour d'appel de Paris concernant le vice-président de Guinée équatoriale. 3 ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende. Théodora Obiang est accusé d'avoir détourné des fonds publics de son pays pour se constituer un patrimoine luxueux, notamment en France. La totalité de ses biens lui sont donc définitivement confisqués, Marion Dubreuil.
Exactement, ces biens seront mis en vente par l'État français. Il y a notamment cet hôtel particulier, avenue Foch, 3000 mètres carrés dans l'un des quartiers les plus chics de Paris. Cinéma, hammam, robinet en or, le tout estimé à 107 millions d'euros. Sarah Brimboeuf, spécialiste des biens mal acquis pour Transparency International France, partie civile dans le dossier de Théodora Obiang, se félicite de sa condamnation définitive. Point final d'une procédure qui a duré 14 ans.
C'est un message très ferme, très fort, envoyé par la justice française. sur ses pratiques, sur le fait que la France ne sera plus bien une terre d'accueil de cet argent sale, de ces fonds publics détournés, puis investis, blanchis en France. On a cette condamnation définitive. On a également maintenant un dispositif spécifique de restitution des biens mal acquis.
Cette procédure de restitution prendra encore plusieurs années. Elle pourra se faire par deux biais, via des appels d'offres à projets ou bien via l'Agence française de développement, avec une préoccupation pour les ONG, s'assurer que cet argent, 150 millions d'euros environ, ce qui correspond au budget annuel de la santé en Guinée équatoriale, soit reversé au profit des Équato-Guinéens.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Nabila, épinglée par la répression des fraudes, l'ancienne star de télé-réalité va devoir payer 20 000 euros d'amende pour pratiques commerciales trompeuses. En 2018, elle avait fait la promotion de services boursiers sur Snapchat sans mentionner qu'elle était rémunérée pour cela. L'enquête sur le braquage d'une bijouterie chômée hier à Paris progresse. Deux suspects ont été interpellés ce matin sur une aire d'autoroute en Moselle. Une partie du butin évalué à 2 ou 3 millions d'euros a été retrouvé sur eux. Ils ont été placés en garde à vue. Les sports, et c'était encore une belle journée pour la France à Tokyo aujourd'hui, avec une nouvelle médaille pour les Bleus qui en comptent 8 au total désormais. Une récompense en aviron grâce à la belle performance des rameurs Mathieu Androdias et Hugo Boucheron, Simon Rubin. Une seule médaille aujourd'hui, mais elle est en or.
Eh oui, médaille obtenue en pleine nuit, hein, heure française, avec ce 2 de couple masculin en aviron, le tandem Mathieu Androdias et Hugo Boucheron qui réalisent une performance de très haut niveau pour battre sur le fil notamment les Pays-Bas. Alors finale qui n'a pas été parfaite hein, techniquement, avec beaucoup d'erreurs, notamment sur les 100 derniers mètres. Des erreurs qui auraient pu coûter cher et qui ont valu une belle frayeur aux Français, c'est raconté par Mathieu Androdias.
En général, ce genre de choses, ça te fait passer à la trappe, quoi. C'est erreur qui te coûte la place. Donc on est conscient de ça, je pense, à ce moment-là. Et là, on envoie tout ce qu'on peut, quoi. Moi, je ferme les yeux et puis je pousse tout ce que j'ai encore à pousser. Hugo, bah, il est déjà parti, quoi. Et on passe la ligne, on ne sait pas, quoi. On sait qu'on a donné le max. On ne sait pas ce que ça donne. On regarde le tableau d'affichage et la délivrance, quoi.
La délivrance pour le tandem français, c'est donc la seule médaille du jour. La France qui est ce soir 9e au tableau des médailles, juste derrière l'Allemagne. Alors pas d'autres médailles, c'est pas passé loin pour l'équipe de France de basket en 3 contre 3. Les Françaises sont 4e. Et puis de beaux succès en basket 5 contre 5. 97-77 pour les Bleus qui sont qualifiés pour les quarts de finale. Et puis handball, victoire 30-29 sur l'Allemagne. En revanche, c'est fini pour l'équipe de France de foot, balayée 4-0 par le Japon.
Simon Rubin qui vous fait vivre les Jeux Olympiques tous les jours de 13h à 14h sur Europe 1 dans le Tokyo Club. Il était l'un des seconds rôles les plus connus du cinéma français. Jean-François Stévenin est décédé hier à Neuilly, près de Paris, à l'âge de 77 ans. Réalisateur par vocation, acteur par hasard, Jean-François Stévenin avait travaillé avec les plus grands et avait tourné dans L'argent de poche de François Truffaut ou encore Une chambre en ville de Jacques Demy. Le réalisateur Alexandre Arcadie a fait 3 films avec lui, dont Le Grand Parrain 2. Il lui rend hommage sur Europe 1.
J'ai vraiment beaucoup de tristesse parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui était un homme si chaleureux, si bon vivant. Avec lui, j'ai fait 3 films et souvent dans des situations de rôle un peu bizarres. Une fois, il était conducteur de bolide, une autre fois, conducteur d'hydravion. Et il disait souvent, la prochaine fois, il va me mettre dans un tank. Donc, c'était un humour permanent, chaleureux, très bon acteur, très, très bon acteur. Et je me souviens particulièrement d'une anecdote. Nous tournions Le Grand Pardon 2 à Miami. Et je ne sais pour quelle raison, il était arrivé au dernier moment. Donc, et on tournait de nuit. Et il a pratiquement tourné avec nous alors qu'il n'avait pas dormi depuis presque 48 heures. Il s'assoupissait un petit peu et il reprenait son rôle. Donc c'est triste, quoi. Voilà, c'est triste.
Le réalisateur Alexandre Arcadie. La météo, Marlène Duret, ce sera un jeudi temporairement calme.
Oui Sophie, avant le retour des nuages, de la pluie et des orages vendredi. Alors la journée de demain s'annonce calme, avec du temps sec, peu nuageux en général. Plus chargé au nord d'une ligne Bordeaux, Limoges, Moulins dans l'Allier, Troyes et Strasbourg. Avec un dégradé de plus en plus nuageux en allant vers les régions proches de la Manche, où quelques averses sont possibles. Et puis au sud de cette ligne, eh bien, le temps sera de plus en plus ensoleillé, en direction donc de l'Alsace, de la Franche-Comté, des Alpes, de la Méditerranée et des régions du sud-ouest. Sur le relief du Massif central et des Pyrénées, on n'échappera pas bien sûr à l'averse orageuse. Température maximale prévue 19 à 25 degrés au nord de la Loire avec 24 à Paris. Nous aurons entre 24 et 29 degrés de l'Alsace aux Alpes et au sud-ouest et entre 29 et 35 dans le sud-est et en Corse. Merci.
Merci Marlène Durel. À la une de vos journaux, demain, deux titres en une de Libération. D'abord, un visage, celui de Jean-François Stévenin, la beauté du franc-tireur, l'hommage rendu à l'acteur et réalisateur décédé hier à l'âge de 77 ans. Et puis autre titre, rentrée scolaire, un vaccin ou au coin. Les élèves non vaccinés ne seront plus acceptés au collège et au lycée si un cas de Covid est diagnostiqué dans leur classe. C'est ce qu'a annoncé Jean-Michel Blanquer. Aujourd'hui, Covid, ce qui attend les élèves et les étudiants à la rentrée, c'est également en une de Ouest-France. Le Covid aussi, pour la Croix, contenir la nouvelle vague, la quatrième vague du virus, c'est bien là. Pour l'heure, elle ne se traduit pas par une hausse exponentielle des hospitalisations. Le Figaro choisit de s'intéresser à la hausse spectaculaire des violences en France. Selon les statistiques dévoilées par le quotidien, les homicides, les agressions et la délinquance sexuelle dépassent de janvier à juin le niveau d'avant-crise sanitaire sur la même période. Les Échos ont choisi de traiter la démonstration de force des GAFA. Apple, Google et Microsoft ont généré près de 60 milliards de dollars de profit sur le dernier trimestre. Nucléaire, la panne stratégique, titre l'Opinion. Emmanuel Macron répète que la transition écologique ne se fera pas sans l'énergie atomique, mais les acteurs du secteur peinent à voir une vision d'ensemble se dessiner. Et puis demain marquera une triste journée, ce sera le jour du dépassement, ce que vous pouvez retrouver en une du Dauphiné le 29 juillet, et déjà toutes les ressources de la Terre sont épuisées. 22h17 sur Europe 1 et c'est à présent votre rendez-vous avec la Libre Antenne et avec vous Catherine Blanc. Bonsoir Catherine.
Bonsoir Sophie.
Comment allez-vous ?
Je vais bien, je vous remercie, je suis en forme et je suis prête à attaquer cette Libre Antenne et je vous retrouve à 23h.
Avec grand plaisir, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.